savoir un petit peu votre parcours, en fait, comment vous êtes arrivé au
chevalerie. Je me suis intéressé.
Et quelle est votre formation au départ?
Ma formation est philosophe, je suis docteur en philosophie. En philosophie, je me suis beaucoup intéressé au sens de l'action. Et comment il y a pas mal de travaux de philosophes qui ont essayé de montrer qu'il fallait repenser l'action. C'est la première phrase du texte de Martin Heidegger dans la lettre sur l'humanisme. Nous n'avons pas pensé d'une manière encore décisive l'essence de l'action. Et j'avais aussi un intérêt pour la pratique de la méditation, mais je ne me sentais pas du tout à l'aise avec un engagement trop religieux. Je ne me sens pas du tout dans une perspective religieuse.
Mais les deux sont liés, le chevalier et la méditation?
Non. Mais je m'intéressais à la méditation, mais je ne m'intéressais pas à la dimension religieuse. Et la dimension chevaleresque m'a semblé une manière très intéressante de montrer un engagement, disons, d'une spiritualité complètement laïque et engagée dans la société. Et je trouvais, et donc la perspective chevaleresque. Je vous laisse écrire. M'est apparu comme une manière très profonde de lier ensemble la question, disons, spirituelle et la question d'un engagement social le plus grand. Et dans notre culture, il y a une séparation qui vient entre le côté, disons, spirituel, traditionnel, symbolique, et de l'autre, l'engagement dans la société, l'engagement, et des fois les gens appellent ça sociétal, j'aime pas trop le mot. Et je trouvais que l'idéal chevaleresque surmontait cette dualité et montrait au contraire qu'il y avait une unité très profonde. Et ça correspondait un peu à mon engagement philosophique que la voie chevaleresque est une voie qui a à voir avec renouveler le sens de l'excellence. On peut dire qu'un des grands axes de la perspective chevaleresque dans toutes les cultures, c'est la place de l'excellence. Et l'excellence, c'est comment quelqu'un se manifeste au sommet de son être, déploie son être. Et je trouve que c'est très important de redonner droit à l'excellence humaine. Parce que c'est par là qu'on peut inviter les êtres humains à donner le meilleur d'eux-mêmes, à se dépasser.
Et ça, c'est quand vous avez mené des recherches sur cette thématique?
Ah oui, par exemple, le livre que vous avez, c'est l'édition de poche d'un premier livre que j'avais écrit. Dans le premier livre que j'avais écrit, j'avais fait un grand travail sur le monde grec, le monde des Celtes, le monde du Moyen-Âge, le monde des troubadours.
Dans le livre?
Oui, il y avait un chapitre par toutes les...
Ok.
Que j'avais beaucoup, donc j'ai beaucoup essayé de travailler là-dessus. Et puis...
Et des chevaliers.
À la fois la chevalerie dans le monde grec, chez Homère, la chevalerie dans le monde des Celtes. J'ai beaucoup travaillé avec des grands spécialistes dans le monde Celtes. Il y a l'histoire de Couchoulin, qui est une histoire absolument formidable dans le monde Celtes. Après, il y a toute l'invention de la chevalerie au Moyen-Âge. Il y a les troubadours, avec toute cette perspective aussi chevaleresque. Puis la christianisation d'idéal chevaleresque, et puis après il y a tous les arts martiaux qui incarnent la vision chevaleresque. Donc j'ai longtemps pratiqué différents arts martiaux, dont le tir à l'arc japonais, et j'ai travaillé avec un maître qui avait vraiment des vertus chevaleresques et qui nous invitait à ne pas prendre les arts martiaux comme un sport, comme une gymnastique, mais comme une manière de faire venir en nous le sens de la dignité, et le sens de travailler sur la peur et l'absence de peur. Et donc je voyais bien que l'enseignement que j'avais était un enseignement qui en travaillant sur moi-même, j'apprenais à être plus ouvert envers le monde. Et on voit aujourd'hui le succès des arts martiaux en Occident à avoir avec quelque chose cette idée de chevaleresque. Des fois il est un peu détourné, ça devient plus qu'un peu de la compétition et du sport, mais quand même le succès de tous ces arts martiaux, aussi bien chinois que japonais, du qigong jusqu'au judo, disent quand même quelque chose de cette aspiration, qu'on peut travailler sur soi-même, qu'on peut travailler à être moins prisonnier de ses émotions ou des idées toutes faites, et qu'on peut trouver quand même une autre forme de liberté, et que l'écoute de soi moins nous enfermer dans un égoïsme, nous rend plus sensible à trouver ce qui est juste pour soi et dans le monde. Et là, je pense que c'était vraiment important. Quand j'étais jeune, mais c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais moins, l'idée que vous travaillez sur essayer de pacifier votre cœur était vue comme une forme d'égoïsme et d'abandon de la société. Je trouvais que cet idéal court-circuitait cette opposition. Et qu'au fond, peut-être on ne peut aider notre société que si on est un peu en paix avec soi-même.
Mmh. Et donc, le livre qui est là, c'est un résumé de ce premier livre?
Non, c'est
ça.
C'est la deuxième partie. On a coupé la première partie qui était un peu plus savante. Parce que vous me demandez comment est-ce que j'avais étudié. Donc, la première partie, c'est qu'on a coupé, c'est toute la dimension, c'est l'exploration des différents mondes chevaleresques occidentaux. Et la deuxième partie, c'est vraiment la voie la plus concrète, pratiquement, comment on fait pour devenir chevalier. Et donc, je parle beaucoup, pourquoi c'est pas une voie masculine? C'est une voie aussi qui concerne les femmes, pourquoi c'est pas antidémocratique, pourquoi... Et après, comment on fait concrètement pour travailler avec, disons, à devenir un meilleur leader, au fond. Parce qu'au fond, tout être humain est appelé à devenir une forme de... Je sais pas comment vous dites, comment on dit en français.
Donc, être un leader, déjà. Enfin, chacun est un leader.
Leader, comme je viens d'un entretien en anglais, leader est,
non,
beaucoup mieux en français. Parce que c'est vrai, leader, parce qu'on peut être leader dans plein de... On peut être leader dans une association, c'est pas... Le mot décideur n'est pas du tout... cette vertu. Alors, j'ai beaucoup étudié aux États-Unis, et on voit le mot aux États-Unis a un sens très large.
Mmh.
Et je trouve que c'est très important. Il faut parler à chacun comment il peut devenir... avoir une forme d'inspiration et d'aspiration. Et puis il y a deux autres choses qui me semblent très importantes dans la perspective chevaleresque, c'est l'aspiration. C'est donner droit à l'aspiration. Et pas seulement au à la planification.
Aspiration.
Par rapport à la planification. C'est-à-dire l'aspiration d'aider le monde. L'aspiration de faire que notre action soit bonne. L'aspiration que notre vie ait un sens. L'aspiration que nos talents, nos qualités servent amplement la société. Et on donne peu droit à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, on parle tout en planification. Si quelqu'un dit, j'espère que par mon travail, mais que son travail soit plombier, peintre, médecin, j'essaye d'aider que le monde soit meilleur, on va trouver ça un peu ridicule. Ou alors on va dire, mais alors combien concrètement tu peux aider de gens? On veut tout de suite aller dans la quantitative. Et la vision chevaleresque, c'est au lieu de penser tout de suite en quantitatif, pensons à l'aspiration. L'aspiration que j'ai change profondément mon rapport au monde au quotidien et peut changer aussi le rapport que les autres vont avoir à leur propre monde. Mais nous avons perdu un peu le sens de l'aspiration.
Oui, quand vous voulez dire l'aspiration...
L'aspiration, c'est à la fois le souci que j'ai que mon action soit bénéfique à tout le monde.
Donc c'est une espèce d'ambition, c'est ça?
Si vous voulez. Mais ambition est tout de suite pris un peu.
Oui, c'est ça.
Vous voyez, on manque de mots en français, mais je trouve que c'est très important. C'est l'aspiration au sens de l'ambition, au sens le plus noble du terme, la noblesse de notre ambition. C'est-à-dire la vision qui nous anime. Et je veux dire, aujourd'hui... J'ai été à un débat il n'y a pas très longtemps où on parlait de qu'est-ce qui pourrait œuvrer à la concorde dans notre monde. Et les gens étaient bloqués en disant, oui, mais la concorde, il y a toujours autant de guerres qu'avant, donc ça ne sert à rien de penser à la concorde. Et on dit tout de suite le calcul. Mais dénier que l'être humain a l'aspiration d'agir pour le bien de l'humanité entière, couper cette possibilité-là, c'est tuer les gens. Mmh. Et ça, dans l'éducation, c'est crucial. Vous ne pouvez pas élever un adolescent si vous ne donnez pas un tout petit peu la perspective chevaleresque, que le monde a besoin de lui et que sa place dans le monde est nécessaire. Et donc la vision chevaleresque, c'est de dire quand même aux gens qu'ils ont une place dans le monde, que chacun peut faire, que chacun peut apporter sa contribution au monde. Il y a un côté, vous allez dire, légèrement idéaliste dans la perspective chevaleresque. Et au fond, peut-être on pourrait dire la chevalerie, c'est accepter un certain idéalisme est indispensable pour maintenir une cohésion sociale juste.
Okay, vous parliez de deux aspects importants.
Oui, j'ai l'aspiration. Et ben, j'ai oublié le deuxième. L'aspiration. On pourrait dire la vision. C'est un peu, c'est deux angles un peu pareils. C'est l'aspiration, c'est notre motivation, si vous voulez, pour dire notre, la motivation. C'est ça qu'on pourrait dire. Enfin, plus encore peut-être ambition. Quelle est notre motivation? Nous, on regarde moins ça aujourd'hui, mais c'est important. Quelle est la motivation dans ce que je fais? Pourquoi je viens, pourquoi je vous réponds à vos questions? Est-ce que c'est parce que je peux avoir plein de motivation? Je peux avoir la motivation parce que je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Je peux avoir la motivation d'essayer de devenir juste plus connu. Ou je peux avoir envie juste que, qu'une parole soit dite et aide les gens, vous voyez. Donc quelle est la motivation que nous avons? On peut toujours interroger sa motivation et travailler sur sa motivation. Et après, on peut avoir aussi une vision. Quelle est la vision qui nous anime? Est-ce qu'on essaye de vrai, vraiment de manière étroite, juste combien ça va rapporter? Ou est-ce qu'on peut essayer d'avoir une vision plus ample? Et je crois que même une action toute simple, c'est-à-dire un métier le plus ordinaire, peut avoir une ambition ample. Et je parle d'une grande ambition et d'une grande motivation, mais ça peut s'incarner dans une action toute simple. Et du reste, n'importe quel être humain qui fait son métier avec cœur, ça change énormément les choses autour de lui.
T'en as fait comment?
C'est ça la vision cheval. Oui, c'est pas au fait quelqu'un qui va être cordonnier et faire que, et avoir cette vision cheval. La chaussure s'est cassée, j'étais en voyage, ma chaussure s'est cassée, je cherchais un cordonnier. Le premier cordonnier me dit moins de 15 jours, je peux rien faire pour vous. Il me dit mais je peux plus marcher, achetez-vous une paire de chaussures neuves. Et le deuxième me dit j'ai pas le temps, et il tourne la tête. Et un cordonnier qui vous parlera simplement humainement, ça change les choses.
Ouais.
Donc je crois que c'est ça un peu le côté très concret de la perspective chevalerie, c'est que vous pouvez penser autre chose qu'à votre, penser autrement qu'à son propre égoïsme. C'est à la fois bien pour soi et bien pour le monde. Et la chevalerie incarnée dans toute l'histoire de l'humanité, la vision que ne penser autrement qu'à son propre égoïsme, ou dans mon langage, ne pas penser tout le temps à moi, moi-même et encore moi, ça fait du bien pour tout le monde. Et tout le monde est heureux. J'étais voir un ophtalmo par hasard qui était passionné par son travail. Et c'était vraiment passionnant. Elle m'a vraiment parlé. Et elle était vraiment chevaleresque dans son travail parce qu'elle s'en foutait. Au fond, elle ne faisait pas ça juste pour gagner de l'argent. Elle ne faisait pas ça juste pour sa gloire. Elle avait vraiment envie d'aider les gens. Mmh. Et elle m'a dit, mais ça ne va pas du tout. Comment vous avez prescrit vos lunettes? Vous êtes, ça va pas du tout. Et elle aurait pu faire comme les autres, appuyer sur le bouton, donner la prescription. Puis elle dit, j'ai essayé de comprendre et on va voir. Bon, malheureusement pour moi, il faut que je fasse de la rééducation maintenant pendant 3 mois. Mais elle m'a expliqué, elle a pris le temps de m'expliquer, de me parler comme un être humain. Et c'est ça la dimension chevaleresque. Et les gens qui ont lu mon livre et qui ont été marqués, c'est ça, ça leur a redonné confiance qu'il n'y a pas de gestes et d'actions hors de la dimension chevaleresque. C'est ça cette perspective, vous voyez, beaucoup plus ample.
Et ici, vous avez reporté ça aux dirigeants, c'est ce principe-là. Et puis j'ai vu qu'il y avait aussi des 3 principes, qui sont l'élégance, la générosité, la justice. Ça, c'est pour tout le monde ou c'est
Oui, les dirigeants, alors, je parle au sens de leader, et au sens tout être humain est d'une certaine manière leader. Après, juste les dirigeants, les leaders, ont une responsabilité devant le monde qui fait que ces questions leur sont encore plus immédiatement brûlantes. Et au fond, il y a en chaque être humain quand même l'aspiration de faire autre chose que gagner plus de profit. Je crois que quand des gens s'engagent dans une entreprise, on prend des responsabilités importantes, souvent ils ont l'ambition, au sens noble, d'aider la situation, de faire que les gens puissent mieux vivre ensemble. Et ce que je trouve très triste, c'est qu'on ne reconnaît plus ça. On ne reconnaît que, je vous dis, la comptabilité, l'effectivité, les profits, le résultat. Et on ne se rend pas compte que là, il y a quelque chose qui fait amplement défaut. Et plus les années passent, plus je suis effectivement... On m'interroge, il y a quelques années, on trouvait ça un peu rigolo, que je parle parle de chevalerie. Et maintenant, j'habite Paris, là, j'étais invité dernièrement par la FNEP à l'ENA. Donc, parce que et le thème de leur année de travail, c'était les émotions au travail. Alors que les autres années, je pourrais, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner plus précisément les références. Les autres années, c'était les droits de douane, que des questions techniques. Puis là, d'un seul coup, ils disent, mais si on ne pense pas à la place de l'émotion au travail, c'est-à-dire à la place de l'être humain au travail, on a un vrai problème avec tout. Et le responsable, le responsable des présidents de la FNEP, qui est quand même un ensemble de grandes entreprises, donc, le disait lui-même, avec les suicides qu'il y a dans les entreprises et le problème de gens qui sont dans une profonde, qui sont en profonde crise, on ne peut pas ne pas penser à ces questions. Donc, je pense que la dimension chevaleresque a un sens très concret aujourd'hui. On ne peut pas penser uniquement en termes de calculabilité maximale. Il faut redonner droit à l'être humain. Et la dimension chevaleresque, c'est de donner droit à l'être humain. Donc, je crois que c'est ça qui est... je crois que c'est ça que les dirigeants d'entreprise et dans le monde de l'entreprise, la notion chevaleresque commence à être importante parce que les gens se rendent compte que ils ont tellement oublié ce qu'ils appellent dans leur langage le facteur humain qu'on arrive à une impasse. Et je vois... Et je trouve que c'est peut-être une meilleure manière de parler de ce qu'ils appellent le facteur humain que de parler de la dimension chevaleresque de l'être humain. Parce qu'au fond, revenons à quelque chose de plus simple. Qu'est-ce que c'est la dimension chevaleresque ? C'est l'art de se, c'est la possibilité de se dépasser. C'est être invité à se dépasser.
Mais ça a plusieurs aspects.
Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
C'est la dimension chevaleresque, pour vous, se limite à l'art de se dépasser ?
Non.
Non, non, ok.
Non, non, je ne vois pas. Il y a plein d'aspects. Il y a l'aspect du courage, il y a l'aspect de l'engagement, il y a l'aspect de l'engagement, il y a l'aspect de prendre soin des autres. Mais comme il y a une dimension toute simple, c'est juste se dépasser, penser qu'on n'est pas enfermé par les conditions dans lesquelles on est. Que tout être humain est responsable, si vous voulez.
Oui.
On pourrait dire aussi que c'est la dimension éthique par excellence. Ce qui est bien avec la dimension chevaleresque, c'est qu'elle n'est pas unilatérale. Vous voyez, elle est très ouverte. Il y a plein d'aspects dedans.
Mais tout le monde peut être
chevalier. Oui. La
connexion.
Je crois que tout être humain a l'aspiration de pouvoir agir, sauf peut-être ceux qui sont dans une voie purement contemplative, comme les moines, qui sont dans une
perspective. Oui, mais je veux dire, tout le monde dans une société peut.
Tout le monde dans une société qui a envie de penser à autre chose que moi-même et encore moi, qui a envie de penser aux autres, est dans une forme de chevalerie. Ça ne demande pas un engagement d'être chevalier, c'est un exemple au fond.
Mais ceux qui ne le sont pas, parce que il y a quand même beaucoup de gens qui sont justement dans cette dimension et la rentabilité.
Je pense que ceux qui ne le sont pas, ils ont renoncé à l'innocence qui était en eux.
Mais
je pense que tout être humain a la
possibilité.
Heureusement.
Si l'idée c'est.
Heureusement, tout être humain en tant qu'il est un être humain, au fond, est appelé par ça. C'est pas par hasard que les enfants jouent à ça. Les adolescents adorent. Quand je parle avec les adolescents, ils meurent quand on leur parle pas comme ça. Ils meurent quand on leur fasse que des contrôles, des connaissances, des savoirs. Et qu'il faut juste avoir des connaissances qu'on leur demande jamais d'être. Au fond, qu'est-ce que c'est la chevalerie ? C'est apprendre à être. On apprend tout le monde on apprend aux gens plein de savoirs, mais on leur apprend jamais à être. Et la vérité qui fait un bon dirigeant d'entreprise, c'est que c'est d'abord son être. C'est pas seulement son savoir. Et donc voilà, donc tout être humain en tant qu'il est peut être chevalier. Alors, il y en a plein qui ont renoncé. Et c'est clair que notre monde est souvent marqué par le cynisme. Donc, on pense que tout ça c'est des histoires, il faut renoncer. Pensons juste à gagner plus d'argent et aider le plus de monde possible parce que si tu n'es pas bouffé, si tu ne bouffes pas les autres, c'est toi qui vas être bouffé. Ouais, ça c'est clair, ça c'est la logique habituelle. Si tu ne bouffes pas les autres, c'est toi qui vas être bouffé. Donc bouffe le plus de gens possible. La dimension chevaleresque, c'est penser que non, cette vie-là, ça vaut pas la peine de vivre si c'est juste ça. Et c'est penser que non, ça vaut la peine d'essayer de faire, d'aider à que le monde soit un peu plus en paix. Et que chacun peut y contribuer. Donc chacun peut y contribuer. Et moi, je crois pas qu'il y ait des êtres qui ont absolument renoncé à jamais à ça. C'est juste qu'ils y croient plus. Et je crois qu'on peut leur parler pour qu'ils y croient encore un peu à nouveau. Et que quelque chose s'ouvre dans leur cœur. Mais je crois qu'il y a une graine dans le cœur de chaque être humain de faire que sa vie ait du sens pour les autres. Que c'est pas... Et que parler de la chevalerie, c'est aider à que cette graine puisse à nouveau grandir. le seul danger réel qu'on ait, c'est le cynisme. Même si en Belgique, vous êtes moins soumis au cynisme que les Français.
Et si vous aviez pour vous trois qualités importantes?
Ça, c'est Laurent qui a mis les trois qualités. Moi, je ne sais pas si j'aurais mis les mêmes.
Élégant, générosité, justice.
Moi, j'aurais mis.
Les qualités Parce qu'ici, c'est l'idée, c'est comment les dirigeants peuvent s'inspirer des chevaliers.
Oui, et je dirais, je dirais une des qualités, c'est de ne pas avoir peur de son aspiration. Ne pas avoir peur de son aspiration d'aider, que son action ait un sens pour tous les êtres. Ne pas avoir peur du souci que nous avons d'aider à que la société soit meilleure. Je dirais que c'est la première qualité. La première qualité, c'est essayer de faire que ce que nous faisons, au-delà de du court terme, ait un sens sur le long terme. Donc, apprendre à penser vaste. Voilà, c'est ça que je pense, la première qualité. C'est apprendre à penser vaste. Et souvent, on fait une action et quand on essaie de penser vaste, on se rend compte que au début, c'est peut-être pas sûr, mais sur le long terme, ça va vraiment aider grandement. Vous voyez, ça se prend la première qualité.
Vous pouvez donner des exemples un peu concrets de ce qu'un. Vous êtes actif dans les entreprises?
Moi, je travaille dans deux entreprises de grandes industries. Oui, et
vous
pouvez industries.
Donner quelques exemples
De ça, oui. Moi, je travaille dans une maison d'édition. Et nous avons décidé, de ne pas penser d'abord à publier les livres qui vendront le mieux, mais à créer une collection qui reflète.
Et quand vous dites, on a décidé.
Avec mon directeur, le directeur général.
Ah oui, vous êtes dans la maison d'édition, vous n'avez pas fait du consulting pour.
Mon métier n'est pas coach, moi je suis engagé, je suis salarié dans une. Dans une entreprise, donc je parlais juste de mon travail moi dans mon entreprise.
Ah oui, oui, ok, je pensais que vous donniez du conseil à certaines entreprises.
Non.
Ah oui, donc vous travaillez dans une maison d'édition.
Voilà,
ah, oui.
Et donc dans l'entreprise dans laquelle je suis, avec mon directeur général. On a pris la décision de ne pas penser uniquement au profit à court terme, puis les livres qui vont se vendre, mais à essayer de créer une collection qui reflète notre aspiration d'aider les gens. Du coup, on est les meilleurs aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on perd. Je peux même vous donner son nom parce que mon directeur s'appelle Laurent Boudin, Boudin. On a fondé une collection en plus sur ce type de livres.
Et qui marche bien, c'est ça.
On a décidé par exemple de ne pas publier de livres un peu farfelus, même s'ils se vendent beaucoup. Et d'essayer de garder une vraie éthique. Et c'était vraiment une vraie. De sa part, c'était vraiment une dimension chevaleresque de faire ça. Mais du coup, on a fait quelque chose que les gens dans l'entreprise. Je ne sais pas s'il faut raconter ça dans votre article.
Je pensais que vous aviez des exemples d'entreprise.
Les gens dans l'entreprise où je suis, quand ils ont compris le projet, donc ils ont vu la vision qu'on avait, ils se sont appropriés, ils étaient très contents d'appartenir à ce projet-là. Et au début, personne ne voulait s'impliquer dans le projet, ils ne comprenaient pas parce que ça ne rapportait pas immédiatement de l'argent comme d'autres projets. Quand ils ont compris que ça donnait du sens et que ça allait aider les gens, ils se sont investis. Les gens étaient. J'ai vu même. Donc là, je vais parler même. Concrètement, jour après jour, j'ai vu les gens dans l'entreprise, la responsable du marketing qui est submergée, qui a plein de problèmes avec ses enfants et tout ça, d'un seul coup trouver que travailler pour la collection avait du sens pour sa vie. Donc je crois que soit je dirige des séminaires, soit après mon boulot, je dirige des séminaires. Dans les séminaires, j'ai plein de dirigeants d'entreprise, mais je ne fais pas du consulting.
Ah oui, c'est ça,
je ne suis pas du tout coach. Mais il y a plein de gens qui dirigent entreprises qui viennent faire les séminaires que je fais. Et ce qu'ils apprennent, dans cette perspective-là, c'est c'est qu'avoir une vision de ce que nous faisons, loin de plomber le résultat, leur donne un allant qui est formidable. Donc la première qualité, c'est penser large. La deuxième qualité, c'est travailler avec sa peur, surmonter sa peur, ne pas être victime de sa peur. Parce qu'un des grands problèmes que beaucoup de gens ont, c'est de décider en fonction de leur peur. Mais la peur n'est pas bonne conseillère. Et le chevalier, celui qui reconnaît qu'il a peur, qui n'agit pas de manière téméraire, mais qui agit avec courage. Et la peur, voilà, n'est pas bonne conseillère. Je crois que c'est la deuxième qualité importante.
Et vous pouvez donner un exemple
De courage, c'est difficile de donner. Mais
des gens qui viennent vous voir, oui, un séminaire, tout ça.
Qu'est-ce que je pourrais dire?
Je ne sais pas, est-ce qu'ils parlent de cas qu'ils ont rencontrés dans leur entreprise ou...
Bah, tu peux y aller. Ça, la plupart des grandes
personnes
sont en fait justement sans écouter la peur qu'on peut avoir par rapport à ce que les gens pensaient ou par rapport à...
Changer de travail, par exemple. Changer de travail.
Ce qu'on va faire.
On a souvent l'impression qu'on va changer de travail. On a l'impression qu'on va perdre quelque chose et on pourrait ne jamais décider d'aller dans le changement. Le changement demande toujours une certaine forme de peur. Donc changer de travail, changer du responsable,
donc on peut responsable. Par peur, décider de ne pas changer, c'est ça?
Ah oui, bien sûr. Par peur, on décide de ne pas changer. Par peur, on décide de garder ce qu'on connaît.
Oui, ok.
Et alors que... Une fois que vous travaillez votre peur, vous voyez, mais au fond, quel est le mieux dans la situation? Ça peut être de ne pas changer, comme ça peut être de changer. Mais souvent, aujourd'hui, dans notre société, il faut changer. Dans les entreprises, il faut changer régulièrement. Il faut pouvoir se remettre en question. Et comment on peut vous remettre en question si vous acceptez? Voilà, surmonter la peur, c'est accepter de se remettre, que se remettre en question n'est pas perdre la face, mais c'est au contraire aller de l'avant.
Donc c'était qu'ils ont peur du changement et du coup ils ne changent pas, quoi, c'est ça?
Oui, ils ont peur du changement, du coup ils ne changent pas. Et ils ont peur du... C'est pas seulement peur du changement, c'est peur aussi de l'inconnu. Peur de la nouveauté. Mais qui revient un peu à la peur du changement. Il y a un risque à prendre.
Que le chevalier va prendre.
C'est clair, l'idéal du cheval, c'est qu'on n'a pas peur de l'aventure. Oui. Et qu'une vie humaine, c'est une vie qui n'a pas peur de l'aventure. Donc le deuxième point, c'est surmonter la peur, reconnaître sa peur. Ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est reconnaître qu'on a peur pour ne pas agir à partir de la peur. Et c'est donc partir à être prêt à l'aventure. Et il faut prendre des risques. Ce n'est pas grave de se casser la figure. Mais le pire, c'est de ne jamais rien tenter. Et vous apprenez de vos erreurs. Mais dans le monde du contrôle absolu, qui est le monde contraire à la chevalerie, vous ne risquez jamais rien. Vous voyez le lien? C'est vraiment le fait de ne pas avoir peur, fait que vous êtes prêt à risquer quelque chose, à partir à l'aventure.
Ouais.
C'est ça qu'il faut réussir à... C'est ça le deuxième point. Ouais. Et la troisième qualité... Mais après, on peut donner la parole à Laurent qui, pour ses trois qualités qu'il a choisies. La troisième qualité pour moi, c'est la présence. La présence authentique. Je crois qu'un grand leader, c'est quelqu'un qui est vraiment présent.
Et quand vous dites ces trois qualités, pardon, c'est des qualités qui sont importantes, qu'on retrouve chez les chevaliers et qui sont importantes pour des...
Voilà, vous m'avez demandé trois qualités majeures pour un chef d'entreprise aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Donc,
pour
les trois qualités pour un chef d'entreprise, le premier c'était...
Viser large.
Viser large,
ne
pas avoir peur de son aspiration. Le deuxième, c'est risquer de ne pas avoir peur et partir à l'aventure. Sentir qu'il y a un élément d'aventure, vous n'allez pas faire n'importe quoi encore, vous ne pas être téméraire.
Mais ça pourrait s'appliquer, ici c'est pour un chef d'entreprise, mais ça pourrait s'appliquer à tous les collaborateurs de l'entreprise.
Absolument.
Ou c'est particulier.
Ah non, absolument tout le monde. Mais moi je pense que tout le monde, de certaine manière. Mais je réponds à votre question, vous m'avez demandé pour un chef d'entreprise quelles sont les trois qualités. Non, mais pour toute personne dans l'entreprise, la troisième qualité, c'est la présence. La présence authentique. La qualité de présence. Et ça, c'est vraiment crucial. Parce qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable de demander des nouvelles à quelqu'un dont le mari est malade. C'est une qualité d'être là. C'est une qualité de ne pas être toujours dans le calcul. Et combien de gens sont blessés et furieux et ne font plus rien parce qu'on ne les a pas considérés comme des êtres humains. Donc la qualité première, à mon avis, d'un bon... Enfin, la troisième qualité du grand leader, la troisième qualité de quelqu'un qui a besoin dans l'entreprise, la troisième qualité chevaleresque, c'est la présence. Quand vous voyez les chevaliers, simplement par leur présence, ils irradient. Ils irradient l'être, la présence, la joie. Et du coup, on leur fait confiance. Qu'est-ce que fait le chevalier? Il va défendre la veuve et l'orphelin. Quand on lit les grands textes de Chrétien III, Il y a toujours des jeunes filles malheureuses qui on a volé tous les on a volé tout et elle voit Gauvin, elle voit Lancelot, alors il est tellement noble par sa présence qu'elles vont lui demander conseil. Et un bon leader, c'est quelqu'un qui par sa présence fait qu'on peut lui parler. Il est accessible. Ça ne veut pas dire qu'il ne soutient pas sa responsabilité, qu'il ne soutient pas le pouvoir qu'il a, mais il est accessible. Il est disponible. Il n'est pas enfermé dans sa tour d'ivoire. Il n'a pas peur des autres. Et donc, un bon leader fait que les employés ou les gens qui travaillent avec lui sont exaltés par travailler avec lui, parce qu'ils ont l'impression qu'ils partent à l'aventure avec lui. Moi, dans la boîte où j'étais, mon patron, j'étais très content de travailler avec lui, parce que j'avais l'impression, voilà, on allait changer quelque chose du monde. Et s'il m'avait dit, on va juste essayer de faire un peu de comptabilité, j'aurais été désespéré. Bien sûr, je gagne de l'argent en faisant ça, et on a pensé ma rémunération. Mais d'abord, on est parti à l'aventure, c'est ça qui était exaltant. Et tout être humain a envie de partir un peu à l'aventure. Et que ce soit humain. Et la troisième qualité, si vous voulez, la présence, c'est la qualité humaine. Donc voilà pour moi les trois qualités, les trois leçons que la chevalerie peut nous donner.
Les trois qualités, en fait, je ne sais pas d'où elles venaient.
Vous pouvez rester à la conférence ou pas?
Jusque 8h seulement, après j'appartiens.
J'en parlerai ce soir.
Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas retenu ces trois-là? Parce qu'elles sont abordées également dans d'autres séminaires de ce cycle.
Ah oui,
la présence, etc. Et donc c'est pour ça que par rapport à la voix des chevaliers, j'ai choisi des qualités qui sont reprises dans le livre, mais qui
sont jetées.
Dont tu vas parler.
Sauf justice que j'ai oublié.
Oui, c'est pas grave. Mais qui sont moins abordés par d'autres orateurs.
Oui, okay.
En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est essayer de trouver, si tu veux, un cycle qui couvrirait toute une série de qualités qu'on peut associer aux leaders sages et voir justement quels seraient les différents orateurs qui pourraient en parler.
Ah oui, d'accord.
Et donc, pour chacun des orateurs, j'ai essayé de focaliser sur trois qualités. Maintenant,
mais comme elles sont importantes, mais comme elles sont un tout petit peu accessoires par rapport à ce que vous voulez faire, si je vous parle de ça, ça va vous enlever de l'essentiel.
Oui, exactement.
Mais non, ça va, parce que l'élégance, pas savoir ce que c'est.
L'élégance,
ça je peux comprendre, mais l'élégance, ça va être quoi?
L'élégance, c'est prendre soin de tous les détails. Ça n'a rien à voir avec, je le disais juste avant, c'est pas du tout la question esthétique. L'élégance, c'est prendre soin de tous les détails. C'est de ne pas opposer le monde matériel et le monde spirituel. Le monde sensible et le monde intelligible. C'est vraiment... L'élégance, c'est ça. En grec, élégance, c'est le bon logos. C'est le fait de mettre ensemble ce qui convient de mettre ensemble. Logos, c'est le mot qui donne raison.
Quand vous dites tous les détails, je vois pas très bien.
L'élégance, c'est le bon logos. D'accord? Ça, vous voyez, et c'est comme eudémonia, c'est le e bon, logos, c'est la raison, le fait de mettre ensemble ce qui doit aller ensemble. Donc l'élégance, c'est mettre ensemble ce qui doit aller ensemble, coordonner. Je trouve qu'il m'en est, c'est là que je vais devoir dire ça dans la conférence après, et j'aime pas me répéter, mais bon, je vais vraiment pas avoir entendu.
C'est pas grave.
L'élégance, donc, c'est le fait de mettre ensemble ce qui doit aller ensemble. Et. Le chevalier est élégant parce qu'il prend soin de tous les détails.
Mais quels détails, justement?
Les détails de comment il s'habille, comment il parle au monde, comment il rentre dans une pièce, comment il dit bonjour à quelqu'un. Tout ça compte. Dans le monde habituel dans lequel on est aujourd'hui, l'élégance, c'est un truc esthétique pour...
Mais dans le cas de l'entreprise, ça va être quoi
C'est-à-dire que tout compte. La manière dont vous dites bonjour à vos collaborateurs, dont vous entrez dans l'appart, dont votre bureau est organisé, où vous placez votre bureau... Comment vous vous habillez, comment vous coordonnez les choses, comment vous partez en voyage, comment vous parlez, le ton sur lequel vous parlez aux gens, tout est absolument important. C'est ça l'élégance.
Oui, en ce sens-là, l'exemple de Steve Jobs est assez intéressant. C'était un maniaque, entre guillemets, de l'élégance, de ses détails, et c'est en quelque sorte aussi ce qui a été à la base de son succès extraordinaire.
Oui. Il vient du zen.
Il vient du zen, d'ailleurs.
Tout Steve Jobs vient du zen.
Oui.
Tout. Il a fait une moine, son maître que je connaissais très bien, lui a dit, travaille dans la société, sois un chevalier plutôt que sois un moine. Et si nous avons Apple, c'est que si Jeff a choisi la voie chevaleresque plutôt que la voie monacale.
Ah, oui, oui.
Le monde aurait été différent s'il avait choisi la voie monacale. Et c'est clair, Steve Jobs c'est un bon exemple d'élégance, parce qu'il n'y a rien qui était négligeable. L'élégance, c'est rien n'est négligeable. Vous voyez, c'est ça que j'ai dit, tous les détails, rien n'est négligeable. À quelle heure vous parlez, enfin tout compte, ce qui fait le succès, ce qui a fait le succès d'Apple.
Mais ça, comment vous... Comment on peut savoir ce qui va marcher, enfin...
Le précepte de l'élégance, c'est pas que ça va marcher, le précepte de l'élégance, c'est que tout ce que vous faites a du sens.
Mais si on fait mal, ça peut avoir l'effet inverse.
Oui.
Quand vous dites la façon dont on parle,
oui, mais si
ça a de l'importance, il faut pouvoir parler correctement.
Oui, mais si vous faites attention aux détails, de la manière, vous allez faire en cohérence avec vous. C'est pas bien ou mal en fonction d'un truc abstrait, c'est en fonction de vous-même. C'est que vous négligez rien. Mais au fond, on apprend de ses erreurs. Donc l'idée, c'est pas de faire quelque chose de parfait, mais l'idée, c'est de tout considérer. Vous voyez, vous comprenez?
Oui.
Heureusement, c'est pas un lancer. Ce dont je parle, c'est pas d'être prisonnier d'une oh, mon Dieu, tout compte. Oh, là, est-ce que j'ai posé le verre au bon endroit?
Oui, c'est ça. C'est,
enfin, c'est le contraire de ça.
Là, c'est ça. Oui,
j'ai le verre, quel verre je vais choisir? Pourquoi? Qu'est-ce que je veux communiquer? Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi je vais faire ça? Vous voyez, c'est ça qui compte.
Oui,
c'est,
ça pas,
c'est l'intention qui compte. Enfin, voilà.
Si on pense à tout.
Ça devient obsessionnel. Alors, ce que je parle, c'est le contraire. C'est juste que l'aspiration que j'ai, l'engagement que j'ai, ce que je veux communiquer, passe par tous les détails.
Ouais.
Mais là même, on dit bonjour, c'est très important.
Ouais. Mais si on se pose 10 000 questions sur la manière dont on dit bonjour, ça devient
fou. Mais si on considère, ça devient fou. Mais si on considère à l'inverse que rien n'est négligeable et que personne ne demande et qu'il ne faut rien mépriser, alors ça change tout. C'est juste une question d'attention. C'est pas une question de règles, c'est une question d'attention.
Ouais, okay.
Vous avez tout à fait raison de souligner. Si c'est des nouvelles règles, c'est claustrophobique. Mais si c'est une forme d'avoir plus d'attention, ça devient l'occasion d'aller de l'avant.